Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, psychose au sein de la population déplacée du site de Savo à Djougou dans l'Ituri. Elle craint une éventuelle attaque d'hommes armés. Du coup, elle quitte le site pour passer la nuit ailleurs et plaide pour le retour de la paix dans cette région. Sud Kivu, deux officiers des FARDC condamnés à 7 ans de prison ferme et renvoyés de l'armée. Ils étaient poursuivis pour viol sur mineurs commis dans le territoire de Walungu. C'est le verdict de la cour militaire prononcé jeudi à l'issue des audiences en chambre foraine tenue à Kamanyola. Et puis, l'invité de ce midi, Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, il revient sur l'attaque des EDF cette semaine à Mukondi, dans le territoire de Beni, attaque qui a coûté la vie à plus de 30 personnes. Il appelle la population à la vigilance. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de l'Ituri. Les personnes déplacées du site de la plaine Savo, dans le territoire de Djougou, vivent ces derniers jours dans une grande psychose. Cette crainte fait suite aux menaces d'attaques d'hommes armés, la dernière survenue en janvier dernier. Par peur, ces familles quittent le site des déplacés la nuit pour aller dormir au centre de la cité de Boulé, à 4 km, ce malgré les risques que cela représente. Ces ménages plaident pour le retour de la paix dans cette région. Martial Kizabiamungu les a rencontrés. Voici ce reportage.
Il est 19h. Un groupe de personnes chargées de quelques bagages sont visibles dans les centres de Boulé. Ils pressent les pas, chèvres attachées, ustensiles de cuisine, couverture ou encore les nattes sur la tête, leurs bras sont chargés. Et parmi eux, une majorité de femmes et d'enfants. Ces départs font suite aux menaces d'attaque du site de déplacés où ils vivent par des groupes armés. Ils préfèrent ne pas y passer la nuit et fuient vers des lieux qu'ils espèrent plus sûrs. Emmanuel Lendalo, président demande les retours de la paix dans les territoires du Djougou pour mettre fin à la souffrance que vivent au quotidien ces familles.
Nous vivons dans les sites des déplacés et partout dans les alentours, il y a la présence de ces milices contre les gens au père. Nous demandons qu'il y ait de la sécurité là-bas.
Pour rappel, le 1er février 2020, des hommes armés ont attaqué le site des déplacés de Savo, Tiwapi de 100 personnes. Le même site a été de nouveau ciblé en janvier dernier par des hommes armés et 7 personnes dont 4 enfants avaient péri. Des actes de ténèbres qui hantent encore ces déplacés et qui vivent dans la peur de nouvelles attaques malgré la présence des FARDC déployés près de leur site. Des retours des boulets, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, des bombardements aériens ont repris dans la matinée de ce samedi après une accalmie précaire observée très tôt ce matin sur la ligne des fronts. Ils opposent l'armée aux rebelles du M23 soutenu par le Rwanda près de Sake, soit 4 à 5 kilomètres de la cité. Les FARDC et les forces d'autodéfense contrôlent toujours la cité de Sake ainsi que l'axe routier Sake-Kiroche. Cette région reste menacée par les rebelles depuis un certain temps alors que les autorités provinciales s'apprêtent à accueillir ce samedi à Goma une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient s'enquérir de la crise sécuritaire qui s'écoule le Nord Kivu depuis novembre 2021. Le point avec vous, Alain Rungmushinj.
La situation reste tendue et imprévisible dans la région de Sake, contrôlée par l'armée, affirment plusieurs sources locales. Des affrontements violents opposés depuis hier vendredi les deux forces toute la journée et la nuit sans relâche. Ces combats se déroulent au niveau de la colline communément appelée Trois Antennes à Kiouli, localité de Murambi, affirment nos sources. L'armée et les forces d'autodéfense continuent à opposer une résistance aux rebelles du M23 et l'armée rwandaise qui chercherait à tout prix à pénétrer dans la cité de Sake sans succès. Les FARDC mettent à contribution des bombardements aériens et leur artillerie lourde pour stopper l'avancée de l'ennemi. La cité de Sake, tout comme l'axe routier Kiroche-Minova, sont toujours sous contrôle des FARDC et des forces d'autodéfense. La population de Sake, quant à elle, s'est déplacée à 80% pour se mettre à l'abri des bombardements qui se font entendre de manière permanente dans la zone. Au moins 5 bombes sont encore tombées hier vendredi dans différents quartiers de Sake et Mubambiro, selon la société civile. Pour l'instant, l'armée n'a pas encore communiqué sur cette situation.
province du Haut-Katanga, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi demande au pouvoir public de diligenter une enquête au sujet de la présence des hommes lourdement armés qui s'étaient introduits à l'archevêché de Lubumbashi le 24 février dernier. Fulgence Muteba l'a fait savoir dans un mémorandum qu'il a signé le 9 mars dernier et envoyé aux différentes institutions du pays. Au micro de Jean Gandou, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi revient sur ce qui s'était passé et voudrait que les responsabilités soient établies. On l'écoute.
Intrusion criminelle des hommes armés qui se réclament de la garde républicaine sans aucun papier légal, et puis violation de mon domicile, de ma résidence officielle, et puis violation de la cathédrale. La cathédrale représente quand même quelque chose de très important pour moi. J'ai constaté que depuis que c'est arrivé, eh bien, il n'y a aucun service étatique qui soit venu ici pour s'enquérir exactement de quoi il a été question. Et c'est le silence total. Alors je me dis, bon, il faut que je présente la version des faits, une version authentique, et que je présente des inquiétudes pour que le pouvoir public puisse répondre. Donc qu'on puisse nous donner des explications sur ce qui s'est passé, parce que l'archevêché et la cathédrale ne sont pas des lieux où on peut venir faire des entraînements militaires ou bien des simulations. Et puis, bon, ces lieux sont entourés d'une certaine inviolabilité juridique qui est reconnue à la fois par le Saint-Siège et par le gouvernement congolais. Alors, tout ce silence que j'ai constaté m'a poussé finalement à poser des questions et à adresser ce mémo à ces pouvoirs publics pour qu'on puisse diligenter une enquête, parce que, bon, sans me prévaloir du titre, n'est-ce pas, de prince de l'Église, je suis quand même un citoyen congolais. Alors, quand quelque chose arrive à un citoyen congolais, il est important que les institutions compétentes puissent prendre leurs responsabilités.
Direction le Sud Kivu. Deux officiers des FARDC écopent d'une peine de prison ferme de 7 ans et sont renvoyés de l'armée congolaise. Il s'agit d'un colonel et un major basés à Kamanyola, dans le territoire de Walungu. Ils étaient poursuivis pour viol sur mineur. Le verdict de la cour militaire a été prononcé jeudi 9 mars à l'issue des audiences en chambre foraine débutées le 27 février. Une dizaine d'autres militaires poursuivis pour viol et meurtre ont également été condamnés par la même cour. Le premier président de la cour militaire du Sud Kivu revient sur ce procès. Le colonel Innocent Mayembe est au micro de Emmanuel Elamegi.
Il y avait au total 19 dossiers. Alors, sur les 19, 15 étaient poursuivis du chef de viol et 4 des crimes de sang, donc des meurtres. Il y a deux dossiers qui n'ont pas été traités. Parce que pour l'un, un prévenu se trouve à la prison d'Angenga, dans l'ex-Équateur. Donc, un prévenu est à Norubangui, on ne pouvait pas les juger en son absence. Alors, le deuxième dossier, nous avons trouvé que il y a eu des pièces du dossier, des pièces accablantes qui ont été subtilisées, on ne sait pas comment. Alors, il y a eu 5 acquittés de viol et 1 acquitté de meurtre. Parmi les 11 condamnés de viol, il y a un colonel, des FARDC, pour avoir violé l'enfant de son garde du corps. C'est une fille de 14 ans, oui. Deux condamnés à 7 ans et renvoyé de l'armée. Alors, il y a eu un major aussi, des FARDC toujours, qui a été condamné à 7 ans aussi et renvoyé. Le major, lui, c'était pour avoir violé une fille de 16 ans. Il est aux aveux, il prétend qu'il ignorait l'âge de la fille. Les 9 militaires qui sont restés ont écopé des peines à l'âge de 6 à 10 ans.
Signalons que les audiences en chambre foraine de la Cour militaire du Sud qui vous tenue à Kamanyola ont bénéficié de l'appui du Fonds social de la République et de la Fondation Panzi. Sud Kivu toujours. Une vingtaine de victimes de la traite des personnes ont déposé plainte contre leurs auteurs au parquet de Bukavu. En majorité des femmes et enfants disent attendre de la justice leur réparation pour tous les préjudices subis de la part de leurs bourreaux. La nouvelle a été rendue publique hier à Bukavu. C'était à l'occasion de la vulgarisation de la nouvelle loi sur la traite des personnes en RDC. Explication avec Emmanuel Elamegi Wakabedi.
La vulgarisation de la nouvelle loi sur la traite de personnes en RDC est assurée par la présidence de la République avec l'appui de l'OIM. Maître Marcelin Kabougou fait partie des avocats des victimes de la traite de personnes du Sud Kivu.
Nous, à Bukavu, nous avons identifié les victimes de la traite de personnes en nombre de 21 victimes. Et ces victimes ont émis le vœu de porter plainte contre les bourreaux. Donc la loi, vraiment, pour nous, tombe à point nommé, parce que ça aura été à l'histoire la première fois que l'on dépose dépose des plaintes en justice en ce qui concerne spécifiquement la traite des personnes.
La justice du Sud Kivu affirme disposer de tous les moyens pour poursuivre et condamner les bourreaux de la traite de personnes. Le magistrat Abedi Sikofu, substitut du procureur général près la Cour d'appel du Sud Kivu.
Nous avons des ressources. La justice, elle collabore avec tous les services. La police, le service de sécurité, de renseignement et autres. La plupart de ces auteurs sont connus de victimes. Par le moyen que l'État met à la disposition de la justice, que nous arriverons à atteindre les auteurs de ces faits.
L'opinion attend maintenant la fixation des dossiers au tribunal pour ce tout premier procès sur la traite de personnes en RDC. Emmanuel Elamejoa Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Et puis, l'association des médias d'information en ligne de la RDC a dénoncé et condamné vendredi 10 mars la plainte du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda à l'auditorat militaire contre le journaliste Stanley Boujakera. Cette structure considère cette plainte comme une tentative de musellement de la presse. Dans un communiqué publié vendredi et signé par son président Israël Moutala, cette association juge fallacieux le motif de la plainte du ministre portant sur des faux bruits répandus par le journaliste à travers une information publié sur Twitter le 5 mars dernier. Le tweet du journaliste disait « Le ministre de la Défense nationale confirme l'avancée sur le terrain du M23-RDF et s'étonne de manque de réaction des forces de l'EAC pourtant présentes sur les lieux. Pour le ministre, cette avancée se justifie par l'amassement récent des troupes RDF au Nord Kivu. D'autres détails avec vous, Alain Rungmushinj. »
Selon la plainte du ministre signée par son conseiller juridique en date du 9 mars, ce tweet a suscité de nombreuses réactions au sein de l'opinion allant de l'étonnement en passant par les outrages pour se cristalliser dans une tendance au soulèvement contre les autorités du pays, spécialement le ministre de la Défense nationale. Le MIL-RDC note pour sa part que les propos du ministre de la Défense, tels que repris dans le tweet du journaliste, n'ont été ni altérés ni dénaturés. Au contraire, ils ont été repris fidèlement d'après le compte-rendu du gouvernement duquel le journaliste appuisait son information. Pour cette corporation des journalistes, l'action du ministre est une tentative de vouloir intimider et museler un journaliste professionnel. Elle exprime son soutien à Stanley Boujakera car n'ayant commis aucune faute professionnelle ou déontologique dans l'exercice de son métier, ajoute-t-elle. Stanley Boujakera Tshamala est à la fois journaliste permanent à Actualité.cd, un média congolais et correspondant pour Jeune Afrique et l'agence de presse internationale Reuters.
Rendons-nous dans la province du Haut-Lomami. Nous apprenons que plusieurs victimes des dégâts causés par la pluie de jeudi dernier à Kamina se retrouvent sans abri et n'ont bénéficié d'aucune assistance jusque-là. Nombreux ont tout perdu et le regard est tourné vers les autorités provinciales. Le commissaire général en charge des affaires humanitaires reconnaît l'ampleur des dégâts mais souligne que le gouvernement provincial manque des moyens pour faire face à ce genre de catastrophe. Jean Gandou, reportage.
Les sources sur place renseignent que les quartiers les plus touchés sont notamment le quartier dit centré urbain et la cité de Katouba. Au quartier centré urbain, ce sont plus de 30 maisons qui ont perdu leur toiture et plusieurs biens des victimes endommagés. S'il y en a qui ont trouvé refuge chez les voisins et membres de famille, les autres passent la nuit à la Belle Étoile et essayent de se créer les abris de fortune avec les tôles ramassées ça et là. On dénombre aussi des blessés dont une femme, la cinquantaine révolue, touchée à la tête. Dans ce quartier, indique le commissaire provincial en charge des affaires humanitaires, il y a un manque criant d'arbres, ce qui expliquerait l'ampleur de dégâts. À la cité Katouba, des dizaines de maisons ont été complètement détruites. À Ankouar Ukakompé, la plupart sont des maisons construites en briques adobe avec de l'argile et sur des terrains marécageux. On compte aussi 3 écoles qui ont perdu leur toiture. Le commissaire provincial en charge des affaires humanitaires précise que le gouvernement provincial manque de moyens pour faire face à ce genre de catastrophes. Il pourrait néanmoins voler au secours de certains selon leur degré de précarité avec le peu de moyens qui pourrait être disponibilisé. Pour faire face à cette catastrophe, les regards sont tournés vers Kinshasa pour une intervention urgente. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Province de la Tshopo, la conservation de la biodiversité du bassin du Congo, c'est autour de cette thématique que sont réunis à Kisangani des scientifiques venus de quatre coins du monde. Au cours de cet atelier, une place a été accordée aux enfants pour s'imprégner de cet engagement de l'humanité à lutter contre la dégradation des écosystèmes. Mutabala Kiekibert, 14 ans, fille de Goodsfeld School, une école de Kisangani, est l'une de ses enfants. Elle a rédigé une dissertation sur la biodiversité qui lui a valu un prix. Billy Van Toumba, notre envoyé spécial à la deuxième conférence internationale sur la biodiversité dans le bassin du Congo, l'a rencontré. Reportage.
J'aimerais parler de la biodiversité. La biodiversité est l'ensemble des êtres vivants et leur milieu de vie. Ou soit c'est l'interaction des êtres vivants avec leur
milieu de vie. Berthe Mutabala Kiki, jeune fille de Kisangani, se sent interpellée pour la toute première fois par cette question liée à l'environnement lors de la période des confinements. Il fait excessivement chaud en cette année 2020, regrette-t-elle.
Il faisait chaud et cela continue jusqu'à présent. Surtout Kisangani, ça m'a vraiment touché négativement, ça m'a vraiment énervé. Pourquoi les réchauffements climatiques alors que nous avons de nombreuses forêts en RDC?
À ces questionnements, Berthe Mutabala trouve
les hommes riches qui veulent construire des maisons pour construire par exemple leur industrie. Lorsqu'ils déboisent les arbres, ils doivent obligatoirement avoir une idée de reboisement.
Le reboisement, la plantation d'arbres et la gestion des déchets doivent aussi être un sujet de causerie entre enfants, souligne Berthe.
Quand nous habitons dans une parcelle où il n'y a pas assez d'arbres, nous devons quand même dire à nos parents de nous apprendre comment planter des arbres. Arrêtez de jeter les déchets partout. Quand vous jetez les déchets partout, il y a des gens qui prennent ces déchets et les brûlent. Et quand ça rencontre aussi qu'il n'y a pas assez d'arbres, ces gaz carboniques vont créer des réchauffements climatiques.
Pour ce plaidoyer, Berthe Mutabala a reçu un ouvrage sur la biodiversité et un kit informatique de la part des organisateurs de la deuxième conférence sur la biodiversité dans le bassin du Congo. Depuis Kisangani, Billy Yvan Lutumba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Trois semaines après les déclarations incendiaires du président tunisien Kais Saied sur les migrants subsahariens et les violences racistes qui ont suivi, la colère ne désenfle pas au Sénégal. Plusieurs associations et organisations de la société civile demandent des excuses publiques du président tunisien. Des appels au boycott des produits de Tunisie ont également été lancés sur les réseaux sociaux. La junte au pouvoir au Mali a annoncé hier le report du référendum constitutionnel prévu le 19 mars, tout en assurant qu'elle respecterait ses engagements quant à un retour des civils à la tête du pays en 2024.
L'invité.
Ce midi, nous recevons le capitaine Anthony Mualushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. Il revient sur l'attaque des EDF dans la nuit de mercredi à jeudi à Mukondi, un village de la chefferie de Bachou dans le territoire de Beni. Il déplore plus de 30 morts au cours de cette attaque et appelle la population à la vigilance. Le capitaine Anthony Mualushai s'entretient avec André Kitenge.
Capitaine Anthony Mualushai, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Que s'est-il passé au village Mukondi? Nous sommes dans la chefferie de Bachou, groupement Malio, territoire de Beni, cette nuit.
Il faut dire que les terroristes ADF MTM ont fait l'incursion dans ces villages de la chefferie de Bachou, tuant ainsi 35 de nos compatriotes avec machette, mais en fouillant, ils ont réussi à tirer en l'air pour alerter. Parce qu'à chaque fois, quand ils exécutent, ils ne tirent pas, parce qu'ils savent que les phares d'essai ne sont pas loin. C'est en fouillant qu'ils ont commencé à tirer pour distraire les gens, pour faire peur à la population de ne pas les suivre. Et les phares d'essai sont arrivés au moment où l'ennemi avait déjà pris l'arche. Nous avons enregistré ces bilans macabres de nos compatriotes et nous tenons à présenter ces sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Mais il faut dire que cette incursion se justifie par un coup dur enregistré par ces terroristes djihadistes dont la chefferie de Bachou. Vous êtes sans ignorer qu'il y a à peu près deux jours, nous avons présenté 22 collaborateurs ravitailleurs et aussi parmi eux un incontournable coordonnateur des opérations bombes dans plusieurs agglomérations dans notre zone de responsabilité. C'est vraiment un coup dur qu'avaient enregistré les mouvements terroristes ADF MTM, sans compter les terroristes ADF qui se sont rendus avec leurs armes auprès des forces armées.
Comment expliquer que des assaillants peuvent venir nuitamment, tuer calmement, sans être inquiétés et se retirer sans aucune intervention militaire pendant ce moment-là? N'avez-vous pas une position militaire dans la région de Bachou, précisément aux alentours de ce village Mukondi?
C'est bien, c'est normal pour dire que comment ils sont venus, ils sont rentrés sans être inquiétés. C'est trop dur. Je sais que quand on est dans ces moments, on peut philosopher comme on veut, mais la guerre, c'est autre chose que la philosophie, que la mathématique que nous avons apprise à l'école. Ce n'est pas le même jour que l'ennemi est venu tuer et rentrer. Je disais tantôt que on vous a présenté plus de 22 collaborateurs. Les autres ont commencé à collaborer avec l'ennemi depuis 2018. Mais ils étaient là, ils travaillaient, ils appuyaient l'ennemi. Ça demande le temps au service de sécurité, avec l'appui de notre population, pour dénicher. Mais c'est en 2023 qu'on vient de dénicher. Aujourd'hui, vous pensez que ces massacres se sont passés comme ça, sans l'aide de certains de nos compatriotes qui sont toujours là dans le village? Mais non, détrompez-vous. À chaque incursion de ces ennemis, il y a toujours l'aide de ceux-là qui ont transformé cette guerre en business.
Mais pourquoi l'armée ne prend pas des dispositions pour prévoir, par exemple, des unités d'intervention dans ce secteur?
Les unités d'intervention sont là. Et d'ailleurs, pour votre information, je vous confirme qu'il y a la présence de nos amis UPDF qui sont là et qui travaillent avec les FARDC. Donc, ce n'est pas à UPDF qui viendra nous libérer. Donc, c'est notre armée.
Capitaine Anthony Mualouchaï, 30, 40 morts dans une seule nuit dans la chefferie de Bachou. C'est trop après plusieurs mois d'accalmie. Pensez-vous que la situation est préoccupante?
La situation a été toujours préoccupante dans notre zone. Et quand on travaille, quand on combat les terroristes ADF-MTM, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va chanter la victoire. Donc, on peut enregistrer la victoire aujourd'hui. Demain, on peut perdre les combats. Mais ce n'est pas pour dire qu'on va baisser les bras. Ou bien, on peut commencer à chanter Alléluia pour dire que les ADF sont terminés. Au moment où un ADF est encore vivant, ce n'est pas encore la victoire. Il y a des gens qui pensent que parce que nous avons passé autant de mois sans des massacres, c'est la victoire. Non, il y a un travail qui a été fait. Bien sûr, on loue ce travail, mais on doit encore faire plus. Si on est distrait, on pense que notre armée a déjà tout fait. Maintenant, on peut dormir sur nos oreilles. Là, on se trompe. La population doit toujours rester vigilante. La population doit toujours accompagner son armée. Et l'armée doit toujours faire des patrouilles de combat partout pour que la paix revienne. Notre objectif final, c'est donner la paix à cette population qui a beaucoup souffert. Alors, c'est beaucoup. Quand on parle des trentaines de morts dans une seule nuit, ça fait mal, c'est très beaucoup. Mais ce que nous demandons à notre population, ce n'est pas nous décourager. C'est ça l'objectif d'un terroriste. Nous décourager, semer la terreur, semer la peur, pour que la population quitte ces villages et qu'eux règnent en maître et commencent maintenant à faire des incursions et des attaques comme bon les semble.
Capitaine Anthony Mualouchaï, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.